les psaumes, le psaume 133, c'est une nouvelle année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année passée, premier dimanche de janvier, nous avions insisté sur le fait de vivre l'année 2016 par rapport à notre famille, le témoignage qu'il fallait rendre dans notre famille, la manière dont il fallait agir vis-à-vis des nôtres. Et je me suis dit que c'était un bon tremplin pour cette année, pas parler de la famille de Dieu, un début d'année placé sous le regard de la famille de Dieu, et comment vivre, comment bien vivre, comment se comporter, comment être dans la famille de Dieu. Alors, bien sûr, c'est certainement le psaume le plus adéquat pour parler de cela. Voici où qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel ordonne, envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Ce cantique, peut-être que c'est à noter d'ailleurs dans vos Bibles, appartient à cette série de cantiques que l'on a appelé le cantique des degrés. Donc les cantiques que l'on chantait au moment où on arrivait à Jérusalem, quand on allait en pèlerinage à Jérusalem. C'est les cantiques de la montée des marches, si vous voulez. Mais quelque part, on a vite réalisé que ça faisait partie du pèlerinage et que tout au long de notre pèlerinage, de la ville d'où l'on partait en direction de Jérusalem, on chantait ces cantiques. Et évidemment, David, lui aussi, les a chantés. Et David, tout au long de son parcours, si vous connaissez un peu son histoire, vous vous souviendrez que David a connu la solitude physique. Il s'est retrouvé seul. Quand il a été pourchassé par Saül, il s'est enfui. Quelques-uns l'ont rejoint quelque temps plus tard, mais il a vécu de grands moments de solitude morale. Ça vous est déjà arrivé de dire, il y a des moments où on est bien seul. On est entouré de tout un tas de gens, mais à cause des problèmes, à cause des difficultés, on se sent seul. La solitude morale. David a connu la solitude spirituelle, abandonné de Dieu, lâché par Dieu, notamment dans la situation d'adultère de Bathsheba. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il avait bien senti que quelque chose n'allait pas bien. Alors cet homme qui a connu la solitude, ces mots dans sa bouche, ça semble vouloir dire quelque chose quand même, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors il met en avant le « demeurer ensemble ». Ça signifie, vous l'avez bien compris, que quand on faisait le voyage, on voyageait ensemble. On ne prenait pas la route tout seul, déjà parce que c'était dangereux. On préférait partir en caravane, on préférait partir tous ensemble. C'était assez sécurisant. Et puis imaginez donc qu'il y a un problème pour quelqu'un, heureusement qu'il n'est pas seul. S'il est seul, c'est plus compliqué. Donc faire le voyage ensemble, c'était bien. Mais on a appris, on sait aussi, qu'il est possible de voyager avec d'autres tout seul. Je ne sais pas si vous aimez le bus, si vous avez déjà pris le bus, si vous aimez Blablacar, ces choses-là, mais vous pouvez voyager avec d'autres. Et quelquefois, si vous prenez le bus, vous allez être assis à côté de quelqu'un qui a envie de parler. Vous êtes parti pour 4 heures. Et vous n'avez pas envie de parler. Vous êtes assis à côté de la mauvaise personne, parce qu'elle va vous parler. Alors vous allez répondre un petit peu gentiment, poliment, et puis après ça va être oui, non, puis après vous allez faire semblant de dormir. Non, j'exagère. Si peu. Mais peut-être que vous avez envie de parler. Et ça tombe bien si vous êtes à côté de quelqu'un qui a envie de parler. Vous n'allez pas avoir passé les 4 heures. Hein. Ça va filer, mais alors tellement bien. Et puis ça va être une occasion, pourquoi pas, de rendre témoignage. Parce que quelquefois, au détour d'une discussion, on est impressionné comme Dieu fait bien les choses. Une fois que vous allez sortir du bus, vous allez dire, mais comment j'ai pu dire tout ça à quelqu'un que je ne connaissais pas? Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous a inspiré, mais rassurez-vous, c'est Dieu qui a mis cette personne à côté de vous. Eh oui, voyager ensemble, c'est partager ensemble. Aujourd'hui, le monde va, il s'en va, il suit une route. Il n'y a jamais eu autant de célibataires, il n'y a jamais eu autant de solobataires, des gens qui vivent tout seuls. sans amis, sans connexion, sans réelles amitiés. Et ça, c'est quand même dommage, parce que seul, c'est tellement plus difficile. Il est évident que David comprend l'importance de pouvoir voyager avec d'autres, de pouvoir voyager ensemble, de pouvoir partager avec d'autres, et quelque part, de tout partager. Frères et sœurs, Jacques, dans l'Écriture, nous a invités, on l'a cité ce texte il y a quelque temps, et on le cite assez régulièrement, mais dites-moi, est-ce que Dieu lui-même ne nous a pas demandé de partager ensemble? Est-ce qu'il ne nous a pas demandé, même parce que nous faisons le même voyage, entre parenthèses, hein, de la terre vers le ciel, nous faisons le même voyage, nous sommes dans la même barque, tous les cas, nous sommes dans la même église, donc dans le même bateau, nous sommes au même endroit, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui finalement nous demande de partager avec nos frères et sœurs, et voire de tout partager, dans la mesure de ce qui est partageable, vous l'avez bien compris. Quand Jacques dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Et quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il ne reste pas seul, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ne croyez-vous pas que c'est important de partager ensemble nos joies, nos peines, nos difficultés, nos fardeaux, nos inquiétudes, nos souffrances? Est-ce que ce n'est pas normal de le faire? Est-ce que ce n'est pas normal? Il y a un constat aujourd'hui, c'est que le monde est en souffrance. Le monde est en souffrance et le monde a de plus en plus de difficultés à répondre à toutes ces souffrances. C'est franchement très compliqué. Mais il y a aussi un autre constat. Et nous le faisons semaine après semaine. Et je vous avoue que c'est très frustrant. L'Église, ben elle est attaquée de toutes parts. L'Église, on prend des coups de tous les côtés. On en prend peut-être pas plus que le monde n'en prend. C'est sûr. Peut-être que l'Église syrienne aura eu une double dose. Oui, certainement. À la fois la guerre et à la fois la souffrance, parce que ben, le diable cherche à détruire. Cherche à détruire. Vous vous souvenez de ces textes de l'Écriture? Le voleur, le loup, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et on se souviendra ce que disait l'apôtre Paul, de ne pas se décourager. Ne perdons pas courage, ne perdez pas courage. Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons bien ce qu'il a en prévision, ce qu'il veut faire. Alors l'Église, ben, elle est en souffrance. Je vous citais ces quatre prières. Dites-moi, on en a marre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je reviens dessus, permettez-moi de le faire. Tous ceux qui ont été opérés, et il faut toujours y revenir. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça ne va jamais s'arrêter, ça. Nos frères et sœurs ne pourraient pas être un peu au large, tranquilles, passer après la vallée de l'ombre de la mort, enfin arriver près des verts pâturages, près des eaux paisibles, vivre des moments calmes, bien sûr. L'Église est attaquée, le diable ne veut pas nous laisser de repos. Et quand on obtient une victoire d'un côté, on prend un coup de massue de l'autre. Claire, Maëline, Anna et d'autres, on se dit, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Alors, on en a parlé il y a quelque temps, de l'efficacité de la prière. Mais, frères et sœurs, le constat, c'est cela, c'est certain. C'est que nous connaissons les plans mauvais du diable, nous les connaissons, ces plans-là. Nous savons que c'est difficile pour tant et tant de frères et sœurs. Alors, j'aimerais tellement nous encourager en disant que ces batailles-là, il ne faut surtout pas les affronter tout seul. Tout seul, non, surtout pas. Voilà pourquoi ben, l'Église, ça fait du bien. Voilà pourquoi il est agréable et il est doux pour des frères et sœurs de voyager ensemble, de faire la route ensemble et de rester sur la même route ensemble pour pouvoir partager les uns les autres. Alors bien sûr, devant toutes ces choses-là, c'est certainement notre défi pour l'année qui vient. Notre défi, c'est de réagir. On ne peut pas rester sans rien faire. Il faut nous comporter comme Dieu l'attend de l'Église. Dieu attend quelque chose de l'Église, évidemment, et nous devons peut-être, je dis peut-être, revenir au commencement de l'Église et voir si toutefois nous n'avons pas perdu ou oublié ou négligé ce que faisait l'Église au départ, comment l'Église agissait, comment l'Église se comportait, comment l'Église finalement vivait Alors, ce n'est pas peut-être qu'il faut revenir au commencement, parce que la base ne changera jamais. Il faut demeurer dans cette dynamique de l'Église, du livre des Actes. Alors, ça sera sans doute un défi pour nous, bien que vous soyez gagnés à cette cause, puisque vous êtes là, bien évidemment. Mais je l'ai résumé sous cette formule-là, en 2017, penser et vivre pour les autres, avant, frères et sœurs, avant de penser et de vivre pour nous. Avant. Or, évidemment, si je vous disais qu'il faut ne penser qu'aux autres et pas penser à nous, j'irais à l'encontre de ce que je vous ai dit l'année dernière à la même période, puisque je parlais de notre famille. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger l'un au profit de l'autre. Celui qui néglige sa famille, c'est une insulte à Dieu. Mais je me dis que, évidemment, on prend soin des nôtres, mais j'ai l'impression que parce qu'on a des difficultés, parce que c'est difficile, parce que le diable envoie des flèches les unes après les autres, on aurait tendance à être obnubilé par notre fardeau, obnubilé par notre problème, et finalement faire passer les autres après. Ce qui est logique. Ça, c'est très humain, c'est très logique. Mais je vais vous rassurer. Je voudrais en tous les cas vous rassurer. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ces paroles sont belles, elles ne sont pas de moi. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Amen. Alors même si je me fais du souci, même si je m'inquiète, et même si je suis un petit peu dépassé par les événements parce que la vie passe vite, vous vous rendez compte que ça fait pour certains 3 semaines qu'on ne s'est pas vu un dimanche. Eh oui, il y a eu le dimanche de Noël, peut-être que vous n'étiez pas dispo. Dimanche dernier, il n'y avait pas de culte. Ça fait 3 semaines. Si je vous l'avais posé la question, vous m'auriez dit oui, on s'est vu la semaine dernière. Ça passe vite le temps. Ça passe très vite. Non, ça fait 3 semaines. Mais vous savez que d'un dimanche à l'autre, ça passe tellement vite à cause de l'activité dans laquelle nous sommes, des activités dans lesquelles nous sommes, qu'on peut oublier les autres. Quelque part, quand je suis à l'église, je suis un peu plus conscient des autres parce que je vois les autres. Mais quand je suis dans ma semaine, quand je suis dans ma bulle, quand je suis dans mon problème, quand je suis dans mes activités, quand je suis dans mon rythme effréné, je ne vois personne. Et quelquefois, j'oublie. Alors notre défi serait peut-être cette année, pour chacun d'entre nous de faire mieux, et je sais que nous faisons bien, et peut-être pour certains de faire plus, parce qu'il y a de la place pour un peu plus quand même, revenir au commencement et penser et vivre pour les autres, avant de penser et de vivre pour nous. Maintenant, vous allez comprendre ce que ça signifie, parce que l'Église, me semble-t-il, ne peut être qu'unie. Ou alors elle n'est plus l'Église. L'Église, elle est obligée d'être unie, sinon ce n'est plus l'Église. On va lire ensemble plusieurs textes dans les Actes des Apôtres, mais pas que dans les Actes des Apôtres, dans d'autres passages aussi. Donc je vous ai résumé quelques versets, mais si vous voulez regarder dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, ce qui est à l'écran est pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Donc, Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chapitre 4, verset 25. Chapitre 4, verset 24, pardon. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Pierre et Jean ont été relâchés, et lorsqu'ils les ont entendus rendre leur témoignage, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Chapitre 5. Verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Chapitre 15 et verset 25. Verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé, à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Donc vous voyez que dans les actes, tout ce qui se faisait ensemble. Ensemble, il y avait une dynamique. C'était le besoin d'être ensemble, c'était le souhait d'être ensemble, c'était la volonté d'être ensemble, c'était la nécessité d'être ensemble. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le programme de Dieu, c'est tous ensemble. Ce n'est pas quelques-uns, c'est tous ensemble. Romains chapitre 15 et verset 6. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Un peu plus loin, aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 5, il dira ceci, Éphésiens 2, 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un peu plus loin, Philippiens, chapitre 3, verset 15. Philippiens, chapitre 3, verset 15. Nous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, marchons ensemble. Et un dernier texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, je vous le cite. Même verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. C'est ça la vie chrétienne. L'Église, c'est tous ensemble. L'Église, c'est comme ça. Alors, nous sommes destinés à vivre ensemble dans le ciel. Commençons ici-bas. Je me souviens, il y a de nombreuses années, mais la première fois que j'ai entendu ça, ça m'avait surpris, mais je l'ai réentendu quelquefois malheureusement, quelqu'un qui me disait, moi je suis chrétien, mais ce que je privilégie, c'est ma relation avec Dieu, les autres, ça ne m'intéresse pas trop. Ouf, ça m'avait fait drôle. Je n'avais jamais entendu ça. C'est dur à entendre. Hein. La vie chrétienne, c'est tous ensemble. C'est l'Église, c'est tous ensemble. C'est pas possible, sinon c'est pas l'Église. D'ailleurs, les Corinthiens en parlent beaucoup. Vous pouvez couper un membre, il sèche, il meurt. Il faut qu'il soit rattaché au reste du corps, sinon il meurt. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, c'est tous ensemble. C'est l'Église ensemble qui avance et qui peut aller de l'avant. Vous avez vu dans les actes, les miracles, les décisions, quand il y a eu des problèmes, on a discuté. Acte 15, le concile de Jérusalem, il y avait un problème sérieux. Quelqu'un aurait pu dire, bon, c'est moi le chef, Pierre par exemple, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est comme ça et pas autrement, et tout le monde se tait. Bon, c'est pas trop démocratique. Il aurait pu agir comme ça, mais il n'a pas fait ça. Ils se sont réunis, ils ont discuté. C'est pas forcément plus simple de prendre une décision quand en face de vous, vous avez que des intellectuels ou que des gens hyper diplômés, parce que chacun a son raisonnement, chacun a sa façon de penser, et chacun a raison. Il faut trouver le consensus, ce n'est pas évident. Mais ils ont discuté tous ensemble, et ils sont arrivés à la bonne mesure, tous ensemble. Et c'est le rapport qui va être transmis. Nous avons discuté, nous avons réfléchi, nous nous sommes réunis tous ensemble, voilà nos conclusions. C'est intéressant d'agir comme ça. L'Église avance quand elle est tout ensemble, quand les frères et sœurs sont tous ensemble pour avancer. Quelquefois, on a évidemment voulu mettre en avant le partage. Et il est arrivé quelquefois qu'on demande à l'Église un petit sondage, « Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses ?» Ah mais là, vous riez. Hein. Ça montre qu'on est bien tous différents. Hein. Parce qu'il y en a un qui vous dira il fait trop chaud et l'autre il vous dira il fait trop froid. L'autre il vous dira la réunion c'est trop tôt, l'autre vous dira c'est trop tard. L'autre vous dira les chaises ne sont pas confortables et l'autre dira qu'est-ce qu'elles sont bien ces chaises, etc., etc. Il y a trop de lumière, il n'y en a pas assez. On ne s'en sort jamais. Bon, il faut trouver le consensus, il faut trouver le juste milieu. Difficile, mais on essaye quand même. Après, ce n'est pas forcément mieux de dire c'est comme ça et pas autrement. Il y a toujours moyen d'améliorer. Il y a des fois, ce n'est pas tellement améliorable, on essaye. C'est bien d'entendre quand même, c'est bien de savoir que les choses peuvent changer et que jamais, au grand jamais, la marche de l'Église soit quelque chose de figé, parce que ça, ce serait terrible. On deviendrait une religion comme les autres, et puis on mourrait, finalement, au bout d'un temps, on finirait par mourir. L'Église ne voulait pas mourir, donc elle était en plein boom, et ça marchait énormément. Vous avez vu que c'est quand même une Église active, et c'est quand même une Église engagée, et le diable le sait. Hein. Le diable sait ce que représente la force de l'unité, ça il le sait bien. Alors qu'est-ce qu'il fera? Mais il essaiera toujours, il cherchera toujours à diviser, cherchera toujours la dispersion.